Avatar 2. C'est l'exploration d'un univers terriblement complexe, mais très cohérent. On découvre un monde magnifique dans lequel les Na'vi vivent en symbiose avec la nature. Et ça fait vraiment du bien de voir ça. C'est comme une utopie ou un fantasme de l'être humain d'être autant connecté avec la nature et d'être autant dans le respect et le partage. C'est ça la beauté de ce film-là. C'est la découverte et l'immersion dans ce monde-là. Et je pense que James Cameron, le réalisateur, le fait très bien. Il nous prend main dans la main, comme un témoin de cette majestueuse planète-là qu'est Pandora. Même que je pense pas qu'il y a un film qui nous fait haïr les humains aussi bien que ça. Et donc, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. On pourrait clairement pas avoir un podcast de cinéma sans parler de ce film-là. C'est probablement un des films les plus attendus de l'année, si c'est pas de la décennie. Sorti 13 ans après le premier film, on parle d'un film qui a quand même un budget énorme. On parle de plus de 1 milliard de dollars qui a été déployé pour les 4 prochains films, donc Avatar 2, 3, 4 et 5, qui vont sortir très prochainement. Donc on est à 250 millions et plus par film, qui est déjà rentabilisé. On s'en attendait, mais heureusement, 441 millions de box-office dans le premier week-end. On est loin du 2,9 milliards d'Avatar 1, qui est, dépendamment de comment tu regardes les chiffres et les statistiques, qui est encore le numéro 1 mondial de box-office de tous les temps. Quand même, le 200,9 milliards, c'est dur à battre. Donc, on va décortiquer dans cet épisode, qui je pense va être quand même assez courte, on va décortiquer pourquoi je pense qu'il y a ben des gens qui comprennent mal Avatar. Il y a beaucoup de critiques qui se promènent présentement sur le fait que sur plusieurs aspects du film, on va décortiquer ça ensemble, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi moi j'ai aimé ça et à quel point je pense que l'avenir d'Avatar est prometteuse. Donc, je vous souhaite de vous installer confortablement. Moi, je suis là avec ma petite crème de menthe glaciale pour l'occasion, étant donné qu'on est l'hiver. En plus, une belle petite crème de menthe bleue des Subversifs est excellente. Ils font aussi la crème de menthe traditionnelle, la verte, Subversif, c'est québécois. Je pense que c'est la seule crème de menthe québécoise sur le marché. Super cool. C'est pas sponsorisé. C'est le gars des Subversifs. Le gars des Subversifs qui est venu dropper ça chez nous. Merci. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Et donc, je vous souhaite et je vous dis bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode du Cinéphile Podcast. Jingle. Pour commencer, je veux quand même qu'on parle un peu des aspects de la production de ce film-là, parce qu'écoute, 13 ans après le film, après le premier film, il sort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans-là? Déjà, il faut comprendre que James Cameron, le réalisateur, c'est quelqu'un de terriblement perfectionniste. C'est aussi quelqu'un de passionné de l'eau. Je pense que c'est facile à croire quand on voit un peu le thème de ses films. Entre autres, un de ses premiers gros films, c'était Abyss, donc un film vraiment axé sur... des extraterrestres dans l'eau. Donc, très différent d'Avatar, mais c'est un vieux film, mais très, très bon. Aussi, bon, Titanic, évidemment, et Avatar. Puis, là, d'autres choses par-ci, par-là. Entre autres, là, tu sais, James Cameron, en 2012, donc pas très longtemps après Avatar 1, il a battu un record du monde. Donc, il a battu le record du monde de la personne qui est allée le plus profondément dans l'eau en solo. Donc, là, on parle pas d'en apnée. Il était vraiment dans une capsule en solo. Il est allé jusqu'à 10 908 mètres. C'est ça le record. Donc, presque 11 000 mètres sous l'eau, là. C'est 35 000 pieds, là. C'est assez fou. Et c'est ça, donc, il a fait ça en 2012. Donc, je pense qu'il a pris du temps pour lui beaucoup. Et c'est là, en 2012, en fait, 3 ans après la sortie, qu'ils ont commencé à travailler sur les nouveaux Avatars. Donc, ils ont écrit ces films-là. Ça a pris autant de temps parce qu'ils trouvaient ça vraiment important d'écrire tous les films parce qu'ils vont en avoir 5. Donc, d'écrire les 4 prochains films, puis il fallait tous les écrire au complet. Pour de un sauver de l'argent sur la production parce qu'ils vont être capables de tourner les films en même temps, mais aussi surtout parce qu'il veut sortir les films rapidement un après l'autre. Il ne veut pas qu'on ait à attendre un autre 13 ans entre deux films. Et surtout, ça permet d'avoir une très grande cohérence dans les films, puis de tisser, de ficeler toute l'histoire, puis les péripéties beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se démarquer dans les prochains films d'Avatar. Donc, ils ont écrit ça. Donc, si on prend ça en considération, on sait déjà que le Avatar 3 est tourné au complet. Il est probablement pratiquement prêt. Le Avatar 4 est tourné à environ 95%, puis le 5 est grandement avancé dans sa production. Donc, il faut savoir là, que pour tourner ces scènes-là, là, ils ont créé, puis ça c'est du classique James Cameron, là, il y a comme la manie de créer des nouvelles technologies à chaque fois qu'il fait un film. Là. Ils ont construit une piscine de 250 000 gallons. Ça, c'est 30 pieds de profond sur 120 par 60 pieds de large. C'est une énorme piscine. Puis dans le fond, le but, c'était de mettre les acteurs là-dedans puis de tourner. Puis ils ont tourné dans cette piscine-là pendant 18 mois. Donc, ils ont tourné des scènes pour tous les films, là, jusqu'au 5. Là. Donc ça, c'est fou. T'sais, les acteurs ont dû s'entraîner un an avant. Ils ont pris des cours de nage particuliers avant pour être capables de faire leurs exploits dans l'eau. Donc, les acteurs-là qui vont dans l'eau avec la technologie qu'ils appellent Performance Capture, qui est comme un genre de suit qu'ils mettent qui permet de vraiment capturer toute leur performance. Donc, tout ce que tu vois les avatars et les navis faire dans le film, les acteurs l'ont fait. Donc, tout a été fait. Là. Je ne sais pas à quel point eux sont conscients de ce qu'ils ont fait et tout parce que tu n'as pas tout le Pandora autour de toi, mais ça a été fait pareil. Puis, je pense que cette technologie-là, ça donne vraiment. C'est vraiment la qualité de faire en sorte que tu écoutes ce film-là et tu n'as pas l'impression. D'être dans un jeu vidéo, là, vraiment pas. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'ai été surpris de savoir aussi que James Cameron vient du Canada, vient de l'Ontario, d'un petit village de 2000 personnes en Ontario. Puis tu sais, avant d'être réalisateur, il était chauffeur de truck. Bon, il a déménagé là, plus tard, il vivait en Ontario, puis il a fini par déménager en Californie. Puis c'est là, il a fait plusieurs emplois, puis il était chauffeur de truck, puis il était vraiment reconnu. Il était, dans le fond, il était comme chauffeur de truck mécanicien, puis il était vraiment reconnu comme étant un gars qui réglait tous les problèmes. Cette personne-là est vraiment ingénieuse. Là. Clairement, les trucs les plus compliqués, t'as un gros problème avec ton truck, c'est James Cameron que t'allais voir. Puis ben, à un moment donné, ben, il est littéralement pratiquement devenu itinérant pour devenir réalisateur, pour suivre son rêve. Fait qu'il a lâché son emploi. Bon, ce qu'on peut trouver sur Internet nous dit qu'il a déjà dormi sur des bancs de parc et tout. Je sais pas à quel point il était vraiment dans cette situation-là longtemps, mais on peut savoir qu'il a fait des sacrifices pour poursuivre son rêve de devenir vraiment un des réalisateurs les plus connus du monde. Donc, c'est vraiment. Donc, ses exploits là, ingénieux, c'est vraiment quelque chose qu'il a fait tout au long de sa carrière. Tu sais, Titanic, là, ils ont construit littéralement la moitié du Titanic pour le film. Et après ça, c'est pourquoi il a fait le film du Titanic. Dans le fond, c'était tout simplement parce que, étant quelqu'un qui aime beaucoup la plongée, qui aime beaucoup l'eau, s'il y avait le fantasme d'aller voir l'épave du Titanic. Fait qu'il s'est dit, comment je pourrais faire ça? Il dit, ben, je vais faire un film sur Titanic, puis je vais dire au producteur que faut aller voir l'épave pour reconstituer le Titanic, puis ça va être la scène qui ouvre le film. Puis c'est le cas, quand tu regardes le film, là, la première scène, c'est effectivement eux qui vont plonger pour voir le Titanic. Donc, ce gars-là se paye vraiment les tripes qu'il a envie. Là. Il a envie de voir le Titanic, il fait un film sur le Titanic. D'ailleurs, c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, si on s'attarde un peu plus sur Avatar 2, c'est quand même le sujet de la vidéo, dans le fond, là, il y en a beaucoup qui critiquent le film parce qu'ils disent que l'histoire est vraiment simpliste. Puis, je pense qu'ils ont raison là-dessus. Autant pour le 1 que pour le 2, le scénario est très simple en soi. Là. C'est vraiment des enjeux normaux, des enjeux qu'on a vus et revus dans des films. Même que le 1, là, c'est quasiment du copier-coller sur le film Pocahontas là, de Disney. C'est vraiment ça. Puis dans le 2, je dirais que c'est beaucoup ça encore. Il y a même la présence beaucoup de clichés là, dans ce film-là, des lignes qu'on a déjà vues et entendues et réentendues dans d'autres films. Je pense que la grosse différence entre le 1 et le 2, c'est que le 2 est beaucoup plus large. Bon, il est plus long, mais il y a beaucoup plus de personnages, puis il y a beaucoup plus de profondeur dans chacun de ces personnages-là. Puis je pense que l'objectif du 2, c'était un peu de remettre la table pour justement une longue série de films. Parce que le 1, t'es comme pas supposé d'avoir de 2, mais là, ils font le 2 en sachant qu'ils vont en faire 5. Fait que vraiment, ils ont mis la table pour vraiment des trucs énormes. Puis je pense que le potentiel de chaque personnage est immense. Sauf que ça fait en sorte que le 2 est encore une fois un peu simpliste. Mais si tu penses que ça fait de ce film-là un mauvais film, je pense que c'est que tu n'as pas compris c'était quoi l'offre de ce film-là. Comme j'ai dit plus tôt, là, c'est une immersion là, dans un monde, là. C'était ça qui était beau du 1, de découvrir la planète Pandora, de découvrir les bêtes. Ben, ce film-là le fait encore plus. On se fait vraiment prendre main dans la main. c'est contemplatif. Il y a des scènes que c'est long et lent, et mais beau. C'est toujours très beau. Je pense entre autres des scènes dans l'eau, où ce que Loak, qui est un des fils de Jake Sully, qui se fait ami avec une baleine de la planète, cette scène-là, c'est vraiment long et beau, tu sais. Puis je trouve que ça fait du bien d'avoir un film qui prend le temps, justement, de nous donner ces scènes-là, tu sais. Puis on est beaucoup habitué, tu sais, avec les Marvel ou les films d'action très expéditifs, très rapides, très stimulants. Mais avec Avatar, c'est pas ça. On est vraiment ailleurs. Puis surtout, tu sais, on met la profondeur, puis je pense qu'on va découvrir encore plus la profondeur du 2 quand le 3, le 4 puis le 5 vont sortir, parce que je suis sûr qu'il va y avoir tellement de liens, tellement de choses qu'on va faire « Ah! J'avais pas pensé, mais ah! Il nous avait donné des indices pour ci, pour ça. » Fait que ça, je pense que c'est très positif. Puis c'est quelque chose que James Cameron, il a dit. Quand ils ont commencé à écrire les nouveaux Avatar, ils se sont attardés sur pourquoi Avatar 1 a été autant populaire. Puis ils se disaient, en soi, c'est une histoire qui peut toucher peut-être plus les Américains, vu l'aspect de ce qui s'est passé ici avec les Autochtones et tout. Il y a quand même certains parallèles du colonisateur qui arrive sur un nouveau territoire. Mais malgré ça, le film a quand même eu un succès mondial énorme. On parle de 2,9 milliards de box-office depuis le début pour Avatar 1. Donc, c'est dit pourquoi les gens se sont tant rattachés à ce film-là partout dans le monde. Puis on est venu à la conclusion que c'était parce que c'était une histoire accessible. Fait que finalement, la simplicité de l'histoire est un peu une force du film. T'sais. C'est une histoire qui peut parler à tout le monde, Avatar 1. T'sais. Fait que c'était volontaire de reproduire ça dans le 2. T'sais. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient que justement ça soit vraiment accessible à tous. Puis ça fait en sorte que dans le fond, le thème du film, c'est James Cameron qui l'a dit, c'est la famille. T'sais. Là, on a un Jake Sully qui a 5 enfants, dont un adoptif. Après ça, on a ces 5 enfants-là qui ont vraiment une personnalité bien définie, puis très riche, puis on en voit beaucoup dans le film. Il y a beaucoup de place pour ces nouveaux personnages-là dans le film, mais j'ai l'impression qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Il reste beaucoup de choses à apprendre encore. Puis je suis persuadé que tous ces personnages-là, donc ces enfants-là, puis même les autres enfants, que je devrais peut-être dire adolescents, de la nouvelle tribu là, aquatique des navis qui découvrent. Je pense vraiment qu'il va y avoir beaucoup de développement de personnages à travers ça dans les prochains films. Donc, ça nous donne justement un film qui a quand même pas mal de clichés. T'sais, par exemple, la scène où ce que les adolescents s'intimident et qui se battent ensemble. T'sais, on a vu ça là, des centaines de fois au cinéma. L'amourette entre justement les deux adolescents, donc le fils de Jake Sully puis la fille... Du roi des navis de l'eau. Beaucoup d'affaires comme ça que ils n'ont pas rien réinventé en termes de scénario. Là. Mais ces petits clichés-là, des fois, souvent dans le cinéma, c'est ça qui faisait rire les gens, des petites phrases. Ça donne des repères aux spectateurs. Puis ça, c'est juste le fun, je pense, de revoir ces choses-là, autant bien faites avec un gros skin d'Avatar. T'sais. Puis, honnêtement, là, je dis que c'est une bonne chose. J'ai l'impression que Avatar 2, ça a comme été un peu un remake du 1. T'sais. Ils ont vraiment voulu mettre la table, mieux faire finalement pour mieux développer sur plusieurs films. Mais je vous mentirais si je vous disais que je serais pas déçu si le 3, le 4 puis le 5 sont un peu comme ça. Je pense que c'est bien qu'Avatar 2 ait fait ça, qu'il ait mis la table pour la suite de cette façon-là. Mais si on innove pas plus si on ne va pas plus profond dans le scénario puis qu'il n'y a pas d'affaires qui est un peu plus étonnant ou mind-blowing dans les prochains films, je vais être déçu. Je pense qu'à un moment donné, il faut pousser ça. Puis j'ai vraiment l'impression que le 2 a fait le travail de mettre sur place le potentiel de le faire pour les prochains films. Fait que ça fait vraiment en sorte que j'ai des grosses attentes pour les prochains films, mais je pense qu'ils vont être capables de le faire, sachant qu'il y a tellement d'argent, tellement de monde, tellement de temps de mis dans la production de ces films-là que je suis sûr qu'ils vont être capables de le faire, mais ça fait en sorte que les attentes sont énormes. Et ça fait en sorte aussi que je comprends pourquoi il y a des gens qui disent que c'est un peu simpliste et qu'ils aiment un peu moins ça, mais moi je dis aux gens, patientez, écoutez-les, puis on va voir dans le 3. Puis c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le 3 est supposé sortir dès l'année prochaine, le 4 l'année d'après, puis le 5 aussi, tu sais. Donc, je pense vraiment qu'on va rentrer dans un univers incroyable, puis que les personnages vont vivre des choses folles. Puis là, on va rentrer un peu plus dans les spoilers, pour ceux... qui l'ont pas écouté. Si vous l'avez pas écouté, je vous souhaite d'aller le voir. Sinon, bon, il n'y a pas de spoiler majeur qui s'en viennent, mais quand même. Tu sais, quand on pense à la complexité des personnages, justement, tu sais, je pense à Spider, qui est comme le fils, qui est un humain, dans le fond, qui a grandi avec les Na'vis, qui a grandi avec la famille des Sully, mais que son père, ben, c'est le méchant du 1. À quel point lui, là, t'sais, ses enjeux sont complexes, là, il est tiraillé d'un bord puis de l'autre. Puis là, finalement, t'sais, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Je trouve que ça n'a pas été énormément exploité dans le film, mais ça a quand même pris une bonne place. Mais je pense que, surtout avec la fin du film, qu'est-ce qu'il a fait à la fin par rapport à son père, je pense vraiment qu'il y a un potentiel énorme sur ce personnage-là pour justement avoir des enjeux psychologiques, familiaux, vraiment intenses. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant à voir. Après ça, il y a Kiri, qui est clairement mon personnage, un de mes personnages préférés. Là, c'est clairement l'enfant des Sully qui est ma préférée. Kiri, en fait, qui est la fille adoptive de Jake Sully, puis Neytiri, qui est sa femme. Donc, elle, c'est la fille adoptive parce que, dans le fond, elle est née à même l'avatar de Grace, qui était la scientifique là, en chef dans Avatar 1, qui est morte à la fin du 1. Donc, finalement, ce qui s'est passé à la fin du 1, quand ils ont essayé de transférer son corps dans son avatar, c'est que ça l'a mis enceinte, son avatar, probablement parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie ou je ne sais pas trop quoi. Fait que là, finalement, personne ne sait c'est qui son père, mais là, sa mère, ça serait Grace. Fait qu'elle aussi, là, c'est le fun, son enjeu, puis de voir jusqu'où ça va aller. Puis, une théorie par rapport à elle qui est vraiment intéressante, puis c'est ma blonde, c'est Pascal, qui a sorti cette théorie-là. Drette dans le film, dans le milieu, elle m'a dit, Kiri, son père, c'est Ewa. Dans le fond, elle n'a pas de père, son père, c'est Ewa. Ewa qui est la divinité là, de la planète Pandora. Toutes les Na'vis sont connectées à elle. Tous les animaux, en fait, de la planète sont connectés à elle. Fait que dans le fond, clairement que c'est Ewa qui a enfanté Grace. Là. Puis ça s'explique par le fait que, tu sais, elle a plus de pouvoir que les autres. On voit qu'elle connecte plus rapidement, plus facilement avec les animaux. Tu sais, c'est la première qui est vraiment à l'aise dans l'eau. Après ça, elle contrôle littéralement des poissons, puis elle les utilise pour se battre. Puis même la première scène qui nous donnait un indice de ça, c'est quand elle est dans la forêt au début, puis qu'elle s'endort sur la pelouse, puis qu'elle se met vraiment comme à vibrer ou respirer là, avec la forêt. C'est une super belle scène. Je pense que c'est la première scène qui nous met un peu la puce à l'oreille par rapport à ça. Fait que tu sais, ce personnage-là, je trouve que vraiment intéressant, en plus qu'elle est super attachante. Je trouve que ça va être le fun de voir le développement, puis je suis sûr qu'elle va nous permettre d'en savoir plus sur Ewa, qui est dans le fond cette divinité-là, qu'on sait pas grand-chose, à part que tu sais, c'est vraiment le dieu de la planète. Mais j'ai hâte de voir à quel point ils vont pouvoir pousser ça, puis de voir quelqu'un qui est né de Ewa. Je pense que ça fait vraiment en sorte que là, on va sortir justement d'un scénario de base. Là. On va aller vraiment plus dans l'originalité du script dans les prochains films avec tous ces enjeux-là, tous ces personnages-là qui sont vraiment complexes, qui s'en viennent. Puis aussi, dans le fond, tu sais, la chimie entre les frères et sœurs des Sully qui se bâtit vraiment de plus en plus avec Took. Took est la plus jeune de la famille, qui était aussi quand même assez drôle, avait vraiment un rôle assez comique dans le film. Mais j'ai hâte de voir dans les prochains films, elle va clairement grandir, elle va vieillir. J'ai vraiment hâte de voir quel rôle qu'elle va pouvoir prendre. Puis j'espère qu'elle va avoir un rôle important parce qu'elle était super agréable à voir. Puis c'est le fun d'avoir un personnage important qui est quand même jeune dans un film. Puis dans un monde où c'est surtout des adultes, souvent ça fait un contraste intéressant. Souvent c'est drôle, mais ça a le potentiel d'être vraiment profond aussi. Fait que je pense qu'on comprend que finalement, je pense, moi personnellement, le 2 a répondu à mes attentes. Je pense qu'ils ont vraiment bien fait ça. Mais je pense qu'il a augmenté mes attentes encore plus pour le 3, le 4 puis le 5. Puis particulièrement quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, qui est en fait quelque chose que James Cameron lui-même a dit. Il a dit que quand il écrivait les films, comment ça fonctionne, c'est qu'il écrit les scripts, il les envoie à la compagnie de production, puis eux, ils leur envoient des commentaires, puis ça, puis des notes. Puis quand il a écrit le 2, il a envoyé ça à la compagnie, ils lui ont envoyé 3 pages de notes. Donc là, il était comme, OK, c'est quand même pas mal, mais OK, on est sur la bonne voie. Il a écrit le 3, il lui a envoyé comme 1 page de notes. Fait qu'il a dit, OK, ça, on s'améliore. Il a envoyé le 4, puis ils ont envoyé un mail, parce que c'était juste écrit, what the fuck? Puis là, il était comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont les notes, et comme, il n'y a pas de notes, c'est positif, c'est... What the fuck, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, dans Avatar 4? Fait que là, James Cameron disait lui-même qu'il était comme, dans Avatar 4, on go crazy. On est vraiment viré fou dans Avatar 4. Fait que ça fait vraiment en sorte que je pense que, et j'espère qu'ils vont exploiter ce potentiel-là. Je suis sûr que oui, mais mes attentes sont plus élevées que jamais, honnêtement. Puis tu sais, c'est le fun justement que cet univers-là soit tellement complexe. Puis le fait qu'on sait que tout est déjà écrit, on sait que tout est ficelé ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'il va avoir une belle valeur de réécouter chacun des films. Tu sais, quand ils vont sortir, je suis sûr qu'on va écouter le 3 et on va avoir envie de réécouter le 2 parce qu'il y a des affaires qu'on n'aura pas compris puis que le 3 va nous avoir mis sur des pistes. Fait que j'espère que ça va être ça. Je suis vraiment enthousiaste d'Avatar. Moi, je pense que c'était un excellent film. Puis je pense que je vais finir ce podcast-là sur, sur ma scène préférée du film. Juste pour mentionner, avant d'aller à ma scène préférée, j'ai vraiment aimé la scène où ce que Loak, le film de Jake Sully, se fait ami avec une baleine. Je trouvais ça vraiment smooth. C'était un peu lent comme ça, mais c'était vraiment beau. Puis j'ai trouvé ça le fun, justement, que ce soit un film qui est un peu slow, tu sais, qui est quand même ralenti. Je trouvais que ça faisait du bien d'avoir cette scène-là. Puis ça m'amène même quelque chose que je pensais pendant le film. Je me disais, c'est vraiment le genre de film que j'aurais vu en série. Il y a plusieurs moments dans le film que je me disais, ah, cette partie-là, ça aurait pu être un épisode. Je pense que le film de 3 heures et quelques aurait pu être divisé en quelques épisodes de 20-30 minutes. Mais bon, c'est pas le genre de Cameron. Je pense qu'il n'a jamais fait de série. Puis probablement que c'est clairement moins payant faire une série. Le cinéma, c'est ça qui est plus payant quand les gens vont en salle. Donc c'est ça. Mais finalement, ma scène préférée, c'est clairement... donc là, ça va être le plus gros spoiler du vidéo. C'est là, si vous n'avez pas écouté le film, je vous conseille de peut-être pas écouter ça parce que c'est le plus gros spoil. La scène où, ce que dans le fond, ils découvrent que ben ce que leur fils aîné, Jake Sully et Neytiri, meurt au combat. Cette scène-là où ce que Neytiri, qui est mon personnage préféré dans cet univers-là, est tellement dévastée, puis elle crie. Puis on vit vraiment la rage avec elle. Puis je trouve que c'est une belle performance de l'actrice Zoé. Je trouve ça terriblement bon, là, justement que c'est bon. Puis là, t'as Jake Sully, en bon militaire qu'il est, qui se rend compte rapidement que, ben, OK, leur fils est mort, mais que leurs deux autres filles sont encore sur le bateau avec le méchant. Fait que là, il prend sa femme, puis il lui dit, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi. Tu sais, comme nos filles sont encore là-bas. Puis là, t'as Neytiri, qui passe par-dessus ses émotions. Puis tu le vois, là, elle est renterre, elle est renfoule en dedans d'elle. Elle vient avec un visage de tueuse. Vraiment. Elle prend son arc, elle dit pas un mot, embarque son oiseau, puis elle retourne sur le bateau. Puis ça, c'est ma scène préférée. Tout le long de cette scène-là, là, elle est comme un ombre, on la voit à peine. Elle tire des flèches, tatatac, elle passe full vite. Je trouvais ça vraiment satisfaisant à voir, elle est fun à voir bouger, elle est fun à voir se battre. Puis tu vois qu'elle est en crise, là. Tu vois là, qu'elle a mal, elle a perdu son fils, là. Puis là, elle est tue, là. Puis elle est violente. Là. Puis je trouve ça vraiment bon. Puis elle arrive pour à tuer la dernière personne. Puis là, elle se remet à crier. C'est après avoir tué tout le monde qu'elle se remet à crier pour vrai, tu sais. Puis ça, c'était vraiment ma scène préférée. Neytiri, j'espère qu'elle va avoir une belle place dans l'avenir d'Avatar. Puis je serais curieux de savoir, peut-être dans les commentaires, c'est quoi votre scène préférée à vous, si vous en avez une. Est-ce que vous pensez la même chose que moi par rapport à la simplicité du scénario? Est-ce que vous êtes hypé pour le 3, 4, 5 ou pas? Est-ce que vous avez été déçu? Ça serait super le fun de vous lire. Et sinon, bon, ça met fin à cette courte épisode aujourd'hui. Probablement la dernière épisode de l'année, ou non, je pense que je vais sortir l'épisode sur Crazy très bientôt. Là, cet épisode-là, je la sors aussitôt que je fais le montage parce que je vais vous la donner plus vite, c'est le temps des fêtes. Et je vais sortir Crazy aussi très rapidement ensuite. Ça fait que ça va être un peu les deux derniers épisodes de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Profitez de vos proches, profitez de la bouffe et profitez de tout l'amour que peut avoir cette fête. Et si vous n'avez pas écouté le film Crazy, qui est un film québécois, qui est un excellent film, un film qu'on peut même catégoriser de Noël aussi, parce que le personnage principal, sa fête, c'est le 25 décembre. Ça tourne beaucoup autour de sa vie. Donc, on voit plusieurs fêtes de Noël, des classiques québécois dans les années 90. Excellent film qu'on a critiqué avec Kevin. Donc, un épisode qui va sortir dans les prochains jours. Et je vous dis merci d'avoir passé ce petit moment-là avec moi, parler d'Avatar. C'était super agréable. On va clairement faire un autre épisode sur Avatar 3 l'année prochaine. Et on va certainement faire plein d'autres épisodes aussi dès janvier. J'ai vraiment hâte de vous montrer un peu nos nouveautés. Il va y avoir quelques nouveautés côté studio. Fait que ça, je suis impatient de vous présenter ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ces vacances. Et je vous dis à très bientôt.